Bonsoir. L'Office national de l'identification de la population ONUP en sigle est destiné à retarder la tenue des prochaines élections et prolonger ainsi le mandat du chef de l'État qui doit prendre fin en 2016. Déclaration de Vital Kamerhe au cours d'une conférence de presse lundi dernier. Pour lui, cette structure n'est qu'une nouvelle trouvaille de la majorité après avoir tenté de passer par le Parlement et un référendum pour réviser la Constitution. Quelle analyse faire de cette déclaration? Nous en parlons avec Jolino Makedele, il est porte-parole de l'Union pour la Nation Congolaise, parti de l'opposition et député provincial élu de Kinshasa. Bonsoir Jolino Makedele.
Bonsoir monsieur.
Jean-Pierre Kambila, il est conseiller politique du chef de l'État et cadre du PPRD. Bonsoir Jean-Pierre Kambila.
Bonsoir et merci de l'invitation.
Et professeur Emmanuel Kabongo, analyste et professeur en philosophie politique à l'Université pédagogique nationale UPEN en sigle. Bonsoir professeur Emmanuel Kabongo.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
C'est depuis le 15 octobre dernier que le président de la République a signé l'ordonnance portant nomination des personnes devant animer une nouvelle institution publique dénommée Office national de l'identification de la population ONUP en sigle. Comme son nom l'indique, l'ONUP est chargé de recenser la population congolaise pour les futures échéances électorales. Cependant, l'institution de l'ONUP est décriée par l'opposition politique qui voit en cette démarche une manœuvre du pouvoir en place de prolonger le mandat du chef de l'État actuel. Berry François Luchaka pour les détails.
Créée le 15 octobre 2014 par ordonnance présidentielle, l'ONIP a été présentée un mois plus tard par le ministre de l'Intérieur Richard Mouyège aux membres du gouvernement, au corps diplomatique, députés et sénateurs. Selon le ministre de l'Intérieur, l'ONIP vient mettre un terme à la situation confuse autour de l'identification de la population congolaise avec la délivrance de la carte biométrique de l'identité nationale. Lors de la présentation des membres de l'ONIP à Kinshasa au mois de novembre dernier, le directeur général de cet office a Adolphe Loumanou avait expliqué que le recensement de la population ne relevait pas d'un agenda caché de la majorité présidentielle. C'est même dans cette optique que le directeur général de cet établissement a indiqué que son institution a besoin d'un demi-milliard de dollars pour mener à bien sa mission, et cela pour crédibiliser le processus électoral congolais en le basant sur un fichier crédible. Du côté de l'opposition politique congolaise, on n'entend pas de cette oreille. Selon Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation Congolaise, la mise en place de l'ONIP n'est qu'une formule de plus pour prolonger le mandat de Joseph Kabila.
Nous avons compris qu'après avoir essayé la première stratégie de faire renforcer l'Assemblée nationale et le Sénat, ils ont senti que la majorité est fissurée, ils ont senti que le président du Sénat a haussé le ton, donc ça ne peut pas passer. Ils ont essayé le référendum après avoir visité la province du Bakongo, la province orientale et du Katanga, ils ont senti que le peuple est farouchement opposé à toute idée de révision. Là, ils trouvent une recette, mais c'est un piège qui est totrice, nous le voyons.
Entre-temps, la CENI n'a pas encore publié le calendrier électoral global.
Merci Berry Franklin Luchaka. Jolino Makelele, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle. C'est un parti de l'opposition. Vous êtes aussi député provincial élu de la ville de Kinshasa. L'Office national de l'identification de la population ONUP en sigle, institué à travers le décret numéro 11/048 du 31 décembre 2011 et qui a comme mission notamment effectuer les recensements de la population, délivrer la carte d'identité national. Alors, qu'est-ce qui fait dire à votre parti, l'UNC, que cet organe est destiné à retarder la tenue des prochaines élections et par conséquent prolonger les mandats de l'actuel chef de l'État?
Je ne peux que paraphraser ce que mon président Vital Kamerhe a dit tout à l'heure. Je dois vous rappeler quand même que cette institution a été, si j'ose dire, créée par décret du 31 décembre 2011. De 2011 à 2014, je crois qu'il s'est quand même écoulé un certain temps.
Ça fait 3 ans.
Pour que la majorité se soit rendue compte, tout d'un coup, qu'il y avait nécessité de faire cela, c'est qu'il avait une belle intention derrière la tête. La belle intention, c'est laquelle? C'est d'abord de constater que tout ce qui a été promis c'est-à-dire des élections crédibles et transparentes, dans les délais constitutionnels, et qui devait amener en principe à une alternance, tout cela, le pouvoir en place, le pouvoir kabyliste en place, sans que ça lui échappe. Ça lui échappe dans la mesure où, je peux même commencer par là. Regardez, on a commencé par les fameuses concertations. Les fameuses concertations qui devaient refaire la cohésion nationale. Mais la cohésion nationale, elle a été brisée entre qui et qui ? Entre les tenants du pouvoir actuel et les gens qui se réclament de l'opposition, qui ont vu, qui ont pensé voir la victoire du président Tshisekedi en 2011. Et le président Kabila s'est permis de faire ce dialogue à sa manière, c'est-à-dire à la manière des concertations. Et quand il a vu que ça ne marche pas, si vous voulez que je vous donne certains éléments du fait que ça ne marche pas, regardez l'absence de leadership. C'est-à-dire quand on est incapable de confirmer ce qu'on a promis, notamment l'avènement d'un gouvernement de cohésion nationale. L'institution d'un conseiller spécial chargé de traquer les voleurs, la mafia financière. Tout cela, ça montre à quel point l'absence de leadership, et il n'y a pas de crédibilité. Et à part ça, vous voyez bien que 3 ans après, ils se sont ravisés, ils ont compris que la CENI, avec la poussée de l'opposition, la CENI ne pouvait pas tenir avec son calendrier. Et donc ils se sont dit, révision constitutionnelle, nous n'allons pas y arriver parce que le peuple, ni le Sénat, ni l'Église catholique, ni...
N'êtes-vous pas en train de vous imaginer des choses? Vous vous basez sur quels éléments?
Je vais vous dire jusqu'à quel point l'imagination, c'est du concret. Quand je vous dis la révision constitutionnelle, ils ont commencé par ça. Le président de la République, je le répète ici, le président de la République, contrairement à une opinion volontairement répandue par la majorité, s'est déjà exprimé sur la révision de la constitution, puisque il l'a dit et à travers après les concertations, sans que les concertateurs ne lui aient demandé. Il a dit qu'il faut modifier la constitution à travers l'élection des députés provinciaux au suffrage universel indirect. Ça, c'est un. Donc, ça a impliqué la révision de la constitution.
Il l'avait proposé.
C'est lui. Et la preuve, c'est que la chambre d'enregistrement, la CENI, a immédiatement saisi la balle au bon. Il a fait ça. Deuxièmement, quand ça n'a pas marché, c'est-à-dire ils savent que c'est compliqué, ils tiennent à ce que maintenant... après ce dialogue raté, donc leur fameuse concertation ou congrès Pepper de Bis, comme je l'appelle, ils ont tenu maintenant à ce qu'ils touchent au cœur de la problématique, c'est-à-dire faire des élections locales et municipales avant et les élections passées par perte de profit, l'élection des députés provinciaux, aller maintenant aux élections législatives, mais précéder d'un recensement. Et le recensement, chacun le sait, je vous dis, demandez aux démographes sérieux, aux statisticiens sérieux, ils vont vous dire que ça n'existe pas, un recensement qui se fait en une année sur un pays qui a l'étendue de la République démocratique du Congo. Et monsieur, c'est pas moi qui le dis, monsieur Lumanu lui-même a dit que ça prendra au moins 4 ans. Et ça, je me réserve pour le reste et pour d'autres arguments.
Oui, Julien Maclélé, le recensement de la population est consacré par la Constitution et lors de la présentation des animateurs de cette structure, l'ONIP, son directeur général, le professeur Adolphe Lumanu, a affirmé que l'ONIP est une réponse aux attentes et préoccupations exprimées de longue date par la collectivité nationale et internationale et qu'il était temps que la RDC dispose de manière permanente des données démographiques fiables. Et ça, l'opposition l'a toujours réclamé.
Mais écoutez, il faut quand même faire un distinguo entre le recensement et l'identification de citoyens. Tel que, c'est-à-dire, on annonce comme justification, notamment le fait de rendre les élections, de mettre les élections à l'abri des critiques, des observations, quant au corps électoral. Mais ce qu'on demande, c'est d'identifier ceux qui sont en situation d'aller voter. On ne vous demande pas d'aller...
L'enrôlement qui a toujours été fait par
Et c'est le fichier électoral qui doit être révisité. Et eux, ils veulent commencer par l'enfant qui vient de naître à la seconde même et terminer par le vieillard
qui
va mourir.
C'est ce qui a toujours été réclamé par l'opposition.
Nous avons toujours dit, je ne sais pas, vous serez en mauvaise posture de me trouver un texte, en tout cas venant de l'UNC, qui dit ce genre de choses. Vous serez en mal de me trouver ce texte. Donc je dis, si on peut faire... Et naturellement, revisiter les fichiers électoraux pour voir qui a atteint 18 ans, qui, ayant atteint 18 ans, n'existait plus, ou tout ça, nous sommes d'accord, c'est ce que nous demandons. Mais pas cette manœuvre, eux demeurant, la fameuse institution, le fameux ONIP, c'est un organe partisan. Vous avez vu qui on a nommé là-bas? Ce sont des peuperdiens, des gens, et sans oublier...
Merci.
Non, les autres membres du conseil d'administration sont les gens désignés par le ministère de l'Intérieur, etc. Ah, où sont les experts du ministère du Plan? Où sont les experts du ministère de l'Économie qui sont des statisticiens et avérés? Où sont-ils?
Merci, Jean-Pierre Kambila. Je rappelle que vous êtes conseiller politique du chef de l'État et cadre du PPRD. L'ONIP est un piège, une machine à travers laquelle la majorité cherche à retarder les élections de 2016 et prolonger ainsi le mandat du président Kabila.
Nous venons d'entendre un formidable procès d'intention de la part de mon frère et ami David Makelele.
Jolino Makelele.
Oui, Jolino David. Sous la base de ses propres idées, de ses propres craintes, des craintes, à mon avis, imaginaires, il établit tout un scénario auquel il veut donner une certaine crédibilité. Tout ceci ne tient pas la route. Tout ceci ne tient pas la route parce que l'opposition congolaise a une stratégie. Et cette stratégie s'est donnée une tactique. La stratégie, elle consiste à éviter de toutes les manières que possible à aller vers les élections. Et la tactique, elle consiste à répondre à chaque fois qu'il y a un pas pour aller vers les élections, il faut montrer l'opposition. Il faut refuser d'y aller. Pourquoi ? Parce que l'opposition est convaincue que la meilleure manière d'arriver au pouvoir aujourd'hui en Afrique, c'est les printemps arabes, c'est le coup de Ouagadougou. C'est-à-dire que dans un pays, comme une ville comme Kinshasa qui contient 12 millions d'habitants, vous sortez 40 000 personnes dans la rue, c'est beaucoup pour la rue. L'autorité en place n'ose pas tirer. Les militaires font marche arrière, et c'est comme ça que les pouvoirs tombent aujourd'hui. Et ceci n'a rien de démocratique. La seule manière de prendre le pouvoir par les voies démocratiques, c'est d'aller aux élections. Or, sachant bien que ce n'est pas possible pour eux, oh, non pas parce qu'ils n'en ont pas les capacités
intellectuelles. Conseil Kambila, vous avez dit que l'opposition vous fait un procès d'intention. N'est-ce pas que vous aussi, vous êtes en train de faire un procès d'intention à l'endroit de l'opposition?
Je fais une analyse de ce que je vois. Je fais des remarques et j'analyse. Et j'attends qu'on fasse la démonstration que ce que je dis est insensé.
Alors, pourquoi, à votre avis, vous choisissez ces moments pour, n'est-ce pas, actionner les mécanismes de l'ONIP quand vous savez que nous sommes à la veille des élections dans 6 mois, donc l'année prochaine, il est prévu des élections locales en 2016, les présidentielles et législatives nationales. Pourquoi c'est à ces moments-ci, à la veille des élections, que vous actionnez, n'est-ce pas, la machine pour
le recensement de la population? Parce que jusqu'à présent, nous avons été pour ce qu'on appelle chez nous l'enrôlement, c'est-à-dire les listes électorales dans les différentes communes qui chez nous se fait à travers la CENI.
Une opération qui ne prend pas beaucoup de temps.
Jusque-là, mais on était d'accord avec ça. Qui a dénoncé ce fait-là? Qui a critiqué ces listes-là? Qui les a refusées? Ce n'est pas l'opposition. Voilà ce qui vient encore renforcer ma thèse de tout à l'heure, il y a quelques instants, pour dire qu'ici nous sommes dans une tactique qui consiste à chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut dire non. Pour pousser les gens à bout et pour qu'à un moment donné, on arrive à la rue. Et ça, nous n'allons pas tomber dans ce piège-là. Le peuple congolais ne va pas tomber dans ce piège-là. Vous avez demandé qu'il y ait un recensement, qu'il y ait un recensement sérieux. Alors maintenant, accepter qu'il y ait une organisation pour faire ce travail, accepter le temps qu'il faudra pour faire ce travail. Maintenant, quand on dit...
Même si cela va impacter sur les prochaines élections?
Non, écoutez, Le but, c'est de tout faire pour le faire, pour faire ce travail dans le délai. OK? Mais maintenant, moi je le dis le plus naturellement que possible. Maintenant, je préfère, pour ce qui me concerne, 2 mois de retard, 3 mois de retard, et même un peu plus, si c'est pour avoir des bonnes élections, une élection incontestable. Puisque c'est ça le but. Il y a même eu des morts dans cette ville de Kinshasa.
Vous avez suivi l'honorable Jolino Makelele. Des experts pensent que de telles opérations prennent pas moins de 4 ans.
C'est un avis.
Nous sommes en 2014. Donc,
c'est un avis.
S'il faut prendre 4 ans, n'est-ce pas? Il faut donner 4 ans à l'ONU pour faire ce travail. Donc il faut attendre 2019, n'est-ce pas, pour organiser des élections présidentielles.
Non, ça c'est tout simplement une contre-vérité, mais je ne vais pas rentrer dans un débat d'experts. Je souligne tout simplement que le conseil d'administration de l'ONIP est composé de statisticiens respectables, des organisateurs, des gens qui connaissent leur métier. Hein, il faut pas à chaque fois qu'on ne prend pas vos amis, il ne faut pas considérer que...
Lorsque le prof Lumanu, qui est le directeur général de cet organe, lui-même affirme qu'il faut 4 ans, qu'est-ce que vous dites?
Oui, mais ça dépend. Ça dépend de la question.
Surtout que le ministre de l'Intérieur a précisé dernièrement que les recensements administratifs de la population constituent, conformément à la loi organique sur le fonctionnement de la CENI, un préalable à l'organisation des élections présidentielles et législatives.
Je ne contredis pas.
Cela veut dire qu'il faut que l'ONIP fasse son travail, qu'il finisse son travail pour envisager organiser les présidentielles et les législatives nationales.
Cher ami...
L'opposition n'a-t-elle pas raison de s'inquiéter?
Non, l'opposition n'a pas à s'inquiéter. L'opposition a été la première à réclamer, et à réclamer avec insistance, la mise en place d'un système électoral clair. Système électoral clair qui implique l'organisation d'un recensement sérieux. Et nous sommes dans cette optique-là. Le problème, ce n'est pas seulement de vouloir arriver au pouvoir coûte que coûte et le plus rapidement possible. Parce que si je suivais mon frère et ami Makelele, mais c'est demain qu'il cherche à arriver au pouvoir et à devenir ministre de l'Information. Lui, il ne veut même pas attendre 2016.
Merci.
Bon, ceci est naturel, mais ça ne veut pas dire que, parce que c'est naturel qu'il ait de telles ambitions, que toute la nation doit se mettre à dire amen. Non, nous avons dans ce pays besoin d'aller vers des élections incontestables, le plus incontestable que possible, et une des conditions, c'est de passer par le référendum. Donnons le moyen à l'ONIP de faire son travail, et donnons à l'ONIP le temps qu'il faut pour bien faire ce travail.
Professeur Emmanuel Kabongo, je rappelle que vous êtes analyste et professeur en philosophie politique à l'Université pédagogique nationale UPN en sigle. Comment vous analysez cette déclaration de l'UNC selon laquelle l'ONIP est destinée à retarder la tenue des prochaines élections et prolonger ainsi le mandat du chef de l'État? Il y a le conseiller Kabila qui estime que c'est tout simplement un procès d'intention de la part de l'opposition à l'endroit de la majorité présidentielle.
Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais m'acquitter d'un devoir agréable, c'est-à-dire de saluer le conseiller Kabila, saluer l'honorable porte-parole de l'UNC.
Merci.
Je voudrais plutôt, à mon avis, ne pas prendre position pour ou contre cette déclaration. Je prendrais peut-être un autre axe, c'est l'axe culturel. Dans l'ordre normal, dans l'ordre historique des choses, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que quand un peuple est là, c'est-à-dire un ensemble de personnes, femmes et enfants, qui sont nés sur un territoire, ce peuple d'habitude développe, n'est-ce pas, un ensemble, partage un ensemble de valeurs, n'est-ce pas, qui sont liées à ce qu'on appelle la souveraineté nationale, l'indépendance nationale, la libération nationale, l'intérêt général, l'État et tout et tout. Et ce sont ce qu'on appelle des valeurs communes qui constituent leur identité. Et ces peuples, autour de ces valeurs, développent ce qu'on appelle une véritable conscience nationale, c'est-à-dire une volonté de défendre l'intégrité territoriale, de défendre, n'est-ce pas, l'État national. Le peuple est conscient que les territoires et le sous-sol lui appartiennent et qu'il est responsable de son destin et que pour ça, il doit se battre à tout moment. Alors, quand un peuple a de telles valeurs et qu'il développe une telle conscience nationale, il émerge de ce peuple un certain nombre d'hommes, qu'on peut appeler des hommes politiques, donc qui sont porteurs, qui cristallisent l'ensemble de ces attentes, de ces intérêts du peuple, et qui font des partis politiques. À ce moment-là, les partis politiques ont pour mission d'abord d'analyser les réels pour dire au peuple que voilà, en fonction de nos de vos attentes, en fonction de nos idéaux, notre réel vécu est conforme ou bien n'est pas conforme. S'il est conforme, on peut l'améliorer. S'il n'est pas conforme, il faut le détruire et faire un autre réel. Et à partir de là, ces gens, ces hommes politiques ont pour mission d'expliquer les contenus, n'est-ce pas, des mesures politiques au peuple, d'expliquer le fonctionnement de la nation au peuple pour raviver cette conscience nationale. Et à ce moment-là, le discours qui est tenu, c'est le discours d'amener le peuple au combat. Un peuple n'existe qu'en réalité que quand il est capable d'aller dans la rue, de faire des réclamations, de dire non, de dire oui, mais de montrer qu'il existe, c'est-à-dire capable d'aller dans la rue, de s'opposer à des mesures, à des choses qui sont contre son intérêt général. Donc, dès ce moment-là, il y a une véritable classe politique, c'est-à-dire des hommes qui sont conscients qu'ils protègent les intérêts de la nation, et le peuple lui-même est conscient qu'il est maître de son destin, qu'il est capable de se battre pour faire changer les choses. Bon, alors, le problème dans notre pays est que, quand vous regardez du côté de notre peuple, vous avez l'impression des gens qui, en majorité, sont léthargiques, c'est-à-dire ils s'accommodent d'une misère incommensurable, et ils vivent de peu et ils parlent peu. Et de l'autre côté, vous n'avez pas des partis politiques qui portent leurs attentes. Tous ces partis politiques, comme vous les voyez, ils n'ont pas pour mission d'aller dire au peuple, voilà, cette mesure-là n'est pas bonne parce que, de mobiliser ce peuple pour le mettre dans la rue. Mais tous ces partis politiques, quand ils font ce qu'on appelle une politique de spectacle, c'est-à-dire ils font des déclarations à la télévision, dans les médias, à la radio. Mais derrière eux, on voit qu'il n'y a pas ou très peu de gens qui sont informés de la quintessence même de ce qu'ils critiquent.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, professeur?
Donc, je voudrais dire ici que aussi bien le PPRD qui prétend être un grand parti politique n'est pas, à mon avis, un parti politique. C'est un ensemble de prétoriens, donc des gens qui ne respectent et n'aiment que la force. Et de l'autre côté, vous avez l'UNC, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui savent qu'ils peuvent manipuler, entrer dans les trucs, discuter et faire ce qu'ils appellent la politique. Parce que la réalité est que ni le PPRD, ni l'ULP, et je dirais même ni l'UDPS, ne sont pas capables aujourd'hui de nous dire que derrière eux, dans un pays de 80 millions d'habitants, peuvent mobiliser 10 millions. Parce que ce qui fait la force aujourd'hui du PPRD, c'est la léthargie nationale qu'on voit là. Donc les gens sont capables de se mettre dans la rue, et quand ils peuvent,
comme si les gens sont capables au débat,
dans la rue,
de
dire non.
Professeur, par rapport au débat actuel, le débat sur l'ONIP, comment vous analysez ce débat?
C'est-à-dire que même les gens de l'ONIP, quand on parle de l'ONIP, c'est là où je voudrais conclure pour dire que c'est vrai que le président Kamere peut faire un discours pour dire voilà, l'ONIP c'est ceci, et le conseiller Kambila va dire voilà, c'est un procès d'intention. Mais derrière tout ça, on ne sent pas qu'il y a que l'UNP, l'UNC a mobilisé un peuple. Il peut mettre ce peuple dans la rue, et contrairement à ce que dit le conseil Kambila, ce n'est pas illégal, c'est même ça la légitimité de politique, c'est même ça, c'est comme ça qu'un peuple vit, et quand il est capable de se mettre dans la rue, de faire un combat. Donc moi je pense pas qu'aujourd'hui, et c'est ça qui crée problème, c'est-à-dire le PPRD est capable de faire passer des mesures en force, de faire passer, de dire, quand on voit une résistance, de changer des choses. Parce que justement, ils se disent.
Professeur, là vous donnez raison à l'UNC ou qu'est-ce que vous voulez dire?
Non, pour moi, c'est, je dirais que la difficulté ici est que ni le PPRD, qui est, ce sont des prétoriens, c'est-à-dire les gens qui, parce qu'ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont un certain nombre de choses qui font de la force, peuvent dire tout ce qu'ils disent en se disant, même si le peuple n'y consent pas, nous passerons par la force. Mais même l'UNC, la difficulté que l'UNC, comme l'UDPS, ne sont pas capables de mobiliser dans un pays de 80 millions d'habitants,
merci,
de mobiliser 10 millions, parce que dans la rue, là, tout tombe. Donc,
merci.
Contrairement à ce que Kambila a dit, c'est le peuple n'existe que quand il combat dans la rue. Mais nous n'avons pas de partis politiques capables d'amener ce peuple dans l'action dans la rue. Et c'est ça ce qui fait la force de l'UMP, du PPRD qui se dit, puisqu'il n'y a rien face à nous, il y a un vide, nous pouvons, en tant que prétorien, c'est-à-dire qu'ils ne respectent que la force.
Merci, professeur.
Donc, la force musculaire.
Merci, Jolino Makelele. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient des Kalemi au Katanga.
Kahiri Matembela à Kalemi au Katanga. Même si Joseph Kabila envisagerait de prolonger son mandat, pourquoi ne pas attendre à ce qu'il se prononce lui-même avant de se condamner les uns les autres?
Votre réaction, Jolino Makelele?
Ma réaction rencontrera en même temps une objection ou une formulation de M. Kabila tout à l'heure quand il parle de procès d'intention. L'UNC fait des procès d'intention, j'allais presque dire à la Kabylie, à l'ensemble de ceux qui soutiennent M. Kabila. Je veux qu'on soit concret.
Même Kairi, l'auditeur qui vient de parler, là,
mais oui, c'est,
l'État n'a rien dit jusque-là.
Alors
pourquoi
moi,
vous semblez vous agiter?
Je vais vous rappeler une chose. Vous savez, les faits en droit, vous savez, quand vous examinez une chose, un fait, voyez quel rapport il a avec la structuration de ce que celui qui veut le faire initier pense. Ici, je dis ceci. Est-ce que, oui ou non, il y a eu un projet de loi portant notamment révision de certains articles de la Constitution, et en particulier l'article 197, qui a été adopté en Conseil des ministres naturellement dirigé par le président Kabila, ou s'il n'a pas été absent, en tout cas dont l'ordre du jour a dû être fixé entre le Premier ministre et le Président de la République, en vertu du principe de la collaboration entre deux têtes de l'exécutif, oui ou non ce projet de loi portant révision est donc conforme au prescrit de l'article 218 de la Constitution, qui dit que toute modification de la Constitution peut émaner du Président de la République, de l'une des deux chambres ou du gouvernement, mais après délibération en Conseil des ministres. Oui ou non, ça existe. Est-ce qu'on a transmis une telle chose à l'Assemblée, oui ou non? Je ne veux pas des histoires imaginaires, tout ça. Il n'y a pas de procès d'intention. Ou on me dit ça n'existe pas, ou on me dit ça existe. Si ça existe, on met fin à cette histoire de procès d'intention. Deuxièmement, lorsque on me parle des élections au suffrage universel indirect. Oui ou non, il y a eu un discours du président Kabila dans lequel il a dit qu'il souhaitait l'élection, que les députés provinciaux ne soient plus élus au suffrage universel direct, mais de manière indirecte.
Et
oui,
donc l'opposition ne fait pas un procès d'intention à la
majorité. Moi, je veux, vous savez, moi, je dirais pas cartésien, mais je suis un homme qui parle des faits. Je veux qu'on rencontre ces observations-là. Je parlais, un, du Conseil des ministres, deux, du discours du président Kabila, trois, de la proposition de la CENI amenée au niveau de l'Assemblée. Ça existe, oui ou non? Je veux des réponses. Faut pas des faux fouillants, je veux des réponses. Je veux pas qu'on m'affuble de qualificatifs de quelqu'un qui fait des choses imaginaires.
Voilà, le Conseil Kabila va vous répondre.
Mais j'ai pas fini, parce que j'avais à répondre là-dessus sur pas mal de choses. Et donc, je disais, pour ce qui est de délai, pour les recensements. C'est pas moi. Oui ou non, M. Loumanou a dit,
vous l'avez entendu. Il faut 4 ans.
Quand M. Loumanou lui-même dit qu'il faut au minimum 4 ans, et que nous savons que les échéances constitutionnelles sont en 2016, au plus tard, le 30 septembre 2016, le processus électoral pour l'élection du président de la République et des députés provinciaux doit être entamé. Mais si vous, aujourd'hui, vous commencez votre processus de recensement aujourd'hui et qu'il vous faut 3-4 ans, monsieur, il ne faut pas être sorti de la Sorbonne ni de Harvard pour comprendre qu'il prépare un glissement.
Il y a des experts aujourd'hui qui soutiennent que l'ONIP est institué pour éviter les soupçons qui ont prévalu aux élections de 2006 et 2011.
Mais 2006, monsieur Malou, il n'est pas à sa première mission. En 2006, il a organisé des élections qui ont, quand même, été considérées comme un peu sérieuses. Et on n'a personne. Je rappelle, on demande seulement à ce que le fichier électoral soit révisité pour ces élections-là. On ne demande pas, parce que dans les missions, il faut quand même lire le texte constitutif portant création de la CENI. Parmi ces missions, les missions qui sont dévolues à ce texte, il y a par exemple le fait de procéder à l'identification systématique et effective de la population, de constituer et entretenir un fichier général de la population, de délivrer des cartes d'identité, de réaliser... Mais s'il vous plaît, toutes ces missions-là, c'est pas ça qu'on veut. Okay, parce que ça, ça tue le processus électoral. Dont on a besoin, c'est un fichier, révisiter les fichiers électoraux. Et pour ce qui est du référendum,
l'enrôlement tel que l'a toujours fait,
le référendum auquel il fait allusion, le référendum, il sait très bien que c'est pas dans l'ordre de choses possible.
Merci, honorable.
Je ne parlerai même pas des financements.
Conseil Kabila, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Kolozi Okatanga.
Professeur Ignace Ndala, depuis Kolozi Okatanga. Je pense que l'identification de la population en soi n'est pas une mauvaise chose et qu'elle ne devrait pas être exploitée pour bloquer le processus électoral. Quant à la déclaration du président Kamere, elle a le mérite d'avoir alerté la population sur les manœuvres malicieuses de quelques citoyens voulant induire le chef de l'État actuel en erreur. L'ONIP, oui, comme un fait normal dans toute société, mais pas comme argument de tricherie.
Conseil Kabila.
Alors, je commençais d'abord par répondre au professeur Kabongo, n'est-ce pas? Le professeur devrait savoir que je ne conteste pas la nécessité d'un peuple de s'exprimer, de revendiquer ses droits. Mais en démocratie, il y a une règle qui a été instituée. Le pouvoir, on le prend dans les urnes. On ne le prend pas dans la rue avec un chantage avec quelques milliers de personnes qui fort probablement ne représentent d'ailleurs pas la majorité, mais seulement en poussant les autres à faire des bêtises qui vont refuser de faire, vous arrivez à prendre le pouvoir. À ce moment-là, ce n'est pas démocratique. Ce n'est pas le peuple. C'est un groupe qui descend dans la rue et qui agit.
Et lorsqu'on a compris
ce jeu-là, puisqu'il a réussi ailleurs, et qu'on veut le mettre en place dans notre société, nous devons le dénoncer par avance. Le peuple a le droit de s'exprimer, il peut se manifester, il doit le dire, il doit s'exprimer. Il a un instrument privilégié pour avoir de l'influence sur le plan politique, c'est son bulletin de vote. Et c'est ça la démocratie. Ça,
voilà.
Maintenant, j'aimerais répondre quand même à mon
Ignace
ami.
Ignace Ndala, de Kolozi.
Il a sa position, son analyse et sa position, sa manière de voir les choses, sa manière de voir le rôle de l'ONIP. Sur l'ONIP, il dit qu'il n'y a pas de problème d'identifier, mais c'est très bien.
Oui, comme fait normal, mais pas comme argument de tricherie.
Non, mais l'argument de tricherie, c'est quoi? C'est-à-dire que dès que vous répondez positivement à une chose qui a été demandée à corps et à cri par le peuple congolais, et notamment par l'opposition, on vous taxe de tricheur. On veut savoir. L'opposition veut-elle un recensement? Veut-elle des élections crédibles ou pas? Mais c'est ce qu'elle a toujours demandé.
Monsieur le conseiller, est-ce que vous êtes conscient du fait que les tâches, n'est-ce pas, que doit accomplir cette institution, l'ONIP, sont tellement énormes que ça va demander beaucoup d'années et cela va inévitablement impacter sur les élections. Or, aujourd'hui, vous savez que c'est une question au sein de la société dont les gens ne veulent pas parler. Hein. Ils ne veulent pas entendre parler d'une éventuelle prolongation du mandat et tout ça.
Écoutez,
vous êtes conscient du fait que cette institution pourra poser des problèmes?
Parfaitement conscient. Mais vous pensez que si les élections se passent mal, parce qu'ils sont faits dans la précipitation, ça ne va pas poser des problèmes? Ça en pose déjà. Puisque nos amis, jusqu'à aujourd'hui, nos amis refusent de considérer
vos amis de l'opposition.
Bien évidemment. Nos concitoyens de l'opposition, ils refusent de considérer, d'accepter la légitimité des élections passées. Sur quelle base? Ils contestent quoi? Ils disent que ça s'est mal passé, l'enrôlement, et ceci et cela. Maintenant, on veut résoudre ce problème-là. Non, ne le faites plus parce que nous sommes à 2 ans de l'élection, nous voulons aller avec le système que nous avions contesté hier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons vers une échéance qu'on va respecter, mais dont on sait très bien que l'autorité qui sortira n'aura aucune légitimité parce qu'elle sera contestée. Voilà le choix que nous avons. Est-ce qu'il faut faire ça? Ou est-ce qu'il faut se dire, écoutez, nous sommes de grandes personnes, nous sommes responsables et intelligents, mettons-nous d'accord calmement pour organiser les choses de manière sérieuse et plus ou moins incontestable, parce que la perfection n'est pas de tout le monde. Voilà la voie que nous montrons. Mais non, personne aujourd'hui ne peut dire que, ah non, il n'y aura absolument aucun retard. Non, et là-dessus, j'ai déjà répondu en disant que je m'inquiète, moi, d'avoir un retard sur les élections que d'avoir des élections qui sont contestables par tout le monde. Voilà, j'espère que c'est reproduit de la manière la plus claire possible. Maintenant, j'aimerais quand même réagir. Lorsque M. Gelinot dit que, si je réponds par oui que le Conseil des ministres avait eu lieu et que pendant ce Conseil des ministres, il a été décidé de présenter un projet au Parlement, etc., si je réponds oui à ça, et que si je réponds oui à ce qu'il y a eu une proposition de Monsieur le Président de la République quant au changement du mode de scrutin, passer du mode de scrutin universel direct au mode de scrutin indirect, ça veut dire qu'il y a un complot. Mais écoutez, je m'excuse beaucoup. Bien sûr qu'il y a eu ce Conseil des ministres. Bien sûr que j'ai eu cette proposition. Mais en quoi ceci consiste en un complot?
Merci. Professeur Emmanuel Kabongo, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Bukavu au sud Kivu.
Octave Zainda, je vous appelle à partir de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Il faut noter que l'ONIP est une structure créée pour déranger les processus électoraux après avoir échoué la révision constitutionnelle. Sa mission est différente de celle de la CENI, mais la majorité veut assimiler ces deux institutions pour semer la confusion dans les processus. Alors, pourquoi le recensement à la fin du mandat, au lieu de préparer les élections dans le respect du mandat? Il y a encore beaucoup de préalables pour les élections qu'il faut réaliser.
Professeur Emmanuel Kabongo.
Oui, je pense que notre peuple, le peuple congolais, est en train de mûrir. Parce qu'en fait, comme on l'a toujours dit, l'histoire marche sur des béquilles. Il y a toujours la béquille de la liberté où les gens, n'est-ce pas, dans une société, font n'importe quoi, parlent, font des constitutions, les changent de constitution quand ils veulent. Et puis, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle une deuxième béquille qui s'appelle des poussées décisives. C'est-à-dire, tout d'un coup, on ne laisse plus les gens à faire ce qu'ils veulent, le peuple prend les choses en main et des poussées décisives, ça éclate et puis les choses renaissent, l'État renaît, l'intérêt général renaît, et c'est ça. Donc je crois que quand on parle aujourd'hui, ce sont des choses, comme on dit l'ONIP, c'est vrai, on en parle. Notre peuple lui-même qui suit tous ces débats, s'est fait une opinion. En fait, moi j'ai toujours l'habitude de penser que les gens se font une opinion, et ils vont penser, je ne suis pas là pour prendre l'option de l'UNC ou l'option du PPRD, mais j'ai dit, le peuple lui-même, qui vit aujourd'hui dans une misère incommensurable, c'est se dire, mais est-ce que ce qui est en train d'être fait là va réduire impossible, ou va changer des choses? Donc, je pense que, oui.
À votre avis, que faut-il pour la tenue des élections apaisées et transparentes en RDC?
Mais vous savez, nous avons eu des élections en 2006, nous avons eu des élections en 2011. Toutes ces élections ont toujours été très contestées. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand les gens me disent que voilà, nous voulons faire un recensement, mettre en place le NIP pour que la direction des élections ne soit pas contestée, j'ai dit voilà, encore quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Donc ce qu'il y a aujourd'hui à faire, c'était que nous devons avoir des vrais partis politiques qui sont capables d'organiser la population pour qu'elle soit à mesure, en 2016, quand on va tenir ces élections, qu'elle soit à mesure de contrôler ces élections, d'avoir des résultats à la base. Parce qu'en fait, nous avions une très belle constitution, une très belle loi électorale, qui dit, après les élections, après les votes, on dépouille et on publie les résultats. Mais c'est le peuple qui est là-bas, là, qui est formé par les partis politiques, qui est capable de prendre ces résultats et de le divulguer et de mettre, de faire du même, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une comptabilité électorale.
Merci.
Mais tant que nous n'aurons pas de partis politiques, et c'est ce que je regrette aujourd'hui, qu'ils soient capables d'avoir à la base, sur, dans chaque bureau, des gens capables d'avoir des résultats, d'en négliger ces résultats, parce que la loi électorale les dit clairement, on dit, après le vote, on fait le dépouillement, on comptabilise et on en affiche. Dès ce moment-là, je crois qu'il y aura moins de tricherie, parce que tout ce qu'on dit là, nous avons des élections depuis deux élections, en 2006 et en 2011, des contestations incroyables. Moi, je pense que c'est dû à la faiblesse de mobilisation des partis politiques. Donc, moi, je dis qu'il y a nécessité aujourd'hui que ces partis se forment les gens, forment leurs candidats, leurs membres à tous les niveaux.
Professeur, nous sommes presque à la fin de l'émission. Comme conclusion?
Oui, comme conclusion, moi, je dis qu'il ne faut pas que le peuple laisse les hommes politiques ou le prétendu homme politique se mettre au-dessus de ses attentes. C'est-à-dire, il faut considérer que la politique est devenue un jeu de boules où les gens s'échangent des paroles, font des déclarations. Les partis politiques n'existent qu'en fonction de la solidité du terrain.
Merci.
C'est-à-dire, ils ont des membres et ces membres sont capables à tout moment de se mobiliser.
Merci, professeur.
Quand on mobilise les peuples, le combat est toujours triomphant.
Merci, honorable Jolino Makelele. Que faut-il pour l'organisation des élections apaisées et transparentes? Vous exigez un calendrier clair qui définit les différentes étapes du processus électoral. Vous pensez que c'est ça la solution?
Mais au moins, c'est un élément. Et surtout, qu'on nous évite la tricherie. Je répète ici que le conseiller Kambila a été incapable de contester ce que je dis, s'agissant de l'implication du président Kabila dans le processus de révision de la Constitution. Il s'est déjà impliqué, puisque le projet de loi portant notamment a été pris sous son autorité.
Et donc pour l'UNC,
il n'y a pas de procès d'intention, c'est un fait. Deuxièmement, je dis, M. Louma nous a parlé de près de 500 millions, ça c'est un fait qu'on ne peut pas contester. Troisièmement, et quand on a parlé du processus, des élections de députés provinciaux, pardon, la durée de 2 à 3 ans pour organiser ces choses, ça c'est des faits, c'est pas moi, c'est M. Loumane.
Alors, s'il faut conclure, pour l'UNC, pas d'opération menée par l'ONIP pour le moment, mais il faut revenir, n'est-ce pas, avec la
diversité,
l'enrôlement
voilà,
tel qu'il a toujours été fait par la CENI.
Ceux qui pourraient être en situation de voter. Mais surtout, j'ajoute un élément, il faut un budget. Or, quand vous lisez l'article, le titre 3 de l'acte en question portant création de cette institution, vous voyez que les ressources de cet office sont constituées notamment des dotations, je commence par là, dotations budgétaires. Vous avez vu quel montant inscrit au budget 2015 par rapport aux 500 millions demandés par M. Loumane.
Et l'ONIP demande 500 millions pour exécuter ses missions.
Alors que ce gouvernement, je rappelle quand même que ce gouvernement, lorsqu'il a promis 9 millions, 8 millions, il n'exécute que la moitié, il va chercher des ressources dans ce que l'opposition a prévu pour le porte-parole.
Conseil Kambila, votre conclusion?
Ma conclusion est très simple. Ce à quoi aspire le peuple congolais aujourd'hui, c'est la réduction de la misère, la protection des libertés fondamentales et la consolidation de la paix. Pour arriver à ça, nous avons besoin d'avoir des autorités dont la légitimité n'est contestée par personne. Et puisque c'est une priorité, je dirais même une priorité absolue, ce qu'il faut faire, ce sur quoi il faut se concentrer, c'est la mise en place d'un système qui, de A à Z, assure que nous arriverons à des bonnes élections.
Merci, c'est la fin de cette émission. RCC Sijakala ici à la technique. Merci à Alain Irung, Kéline Couté et Béry Franklin Bichaka qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Julien Nyamouni devant ses micros guillemettés. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Capitole.